Romains au chapitre 6. Nous sommes de retour dans Romains. Là, pour les deux prochaines semaines, on... Ah ben non! Oui, attends, la semaine prochaine, on n'aura pas du Seigneur, donc on n'a pas Romains. L'autre d'après, c'est pasteur... Pasteur Logan est là le matin, puis il va partir, fait que non, dans deux semaines, on va pouvoir retomber là-dedans. Je veux dire, on ne sera pas pour deux semaines avant. Là. Mais je veux un peu réviser, juste un peu revenir en arrière. Là. Ça fait un petit bout, hein? Un mois de... de ne pas avoir été comme ça ensemble dans notre série dans Romains. On va juste lire les versets 11 à 13, à 14, tiens. Et je vais vous partager une couple de choses sur les deux conditions pour vivre la vie de Christ en nous. Verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Deux conditions pour vivre la vie de Christ en nous. Et je ne sais pas si vous voyez là, il y a une méchante bénédiction dans ce qu'on a lu là. Méchant, on ne devrait pas dire. Il y a une très belle bénédiction, tu sais. Hey, que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous. C'est wow! Moi, je ne sais pas pour vous là, mais moi, ça me tente pas mal. Puis en passant, c'est toute ça l'idée du point de Romains 6. C'est la recette de Dieu, si je peux dire ainsi, pour la victoire sur le péché. Et donc, deux points très importants ici par rapport à cette vie de Christ en nous. Le premier point, c'est au verset 11. Hein? C'est la question de la foi. Ainsi, regardez-vous. On a parlé de ça, le calcul de la foi. On se regarde. C'est un terme comptable. C'est l'idée qu'on se voit à la lumière de ce que Dieu a dit être vrai sur nous autres. On descend la ligne de chiffres, on regarde. Dieu a dit ça, 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 donc je suis ça. Tu sais, c'est vraiment, c'est des faits. Tu sais, comme avec des chiffres, c'est des faits, là, tu peux pas dire ça, plus ça, ça fait ça. Mais là, Dieu a dit que je suis mort avec Christ, je suis ressuscité avec lui, donc je me regarde de même. C'est la conclusion, c'est non négociable, c'est un fait, c'est... On peut froidement regarder ça comme un comptable, mais par la foi, tu sais, par la foi, je l'accepte, je le reconnais. Donc, la première condition... c'est la foi. Parce que qu'est-ce que Dieu nous dit essentiellement dans Romains 6, et spécialement dans le verset 6, c'est que notre vieil homme sera crucifié. Si on est bon et on essaye fort, est crucifié ou même a été. C'est passé. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ et on a juste à le croire. OK? Maintenant, donc on se considère comme mort. Et je me vois comme étant mort au péché. Je me reconnais, je me regarde comme mort au péché. Et de la même manière aussi comme ressuscité avec Christ, vivant en Dieu. OK? Ça, c'est la foi. Et ce genre de, si vous voulez, de calcul de la foi, de reconnaissance, c'est dans le fait, c'est croire à ce que Dieu nous a dit qui était déjà là. Okay? Comme on a vu ce matin, il y a les promesses qu'on veut s'acquérir, mais les faits, on dit merci Seigneur, c'est fait. Okay? Donc, la foi, elle n'essaie pas de s'approprier quelque chose comme s'il faut que je l'acquière. C'est comme, on dit merci, je l'ai acquis. La foi prend ce que Dieu nous a déjà donné. Okay? Dieu nous dit qu'on est vivant aussi, donc autant pour la mort que pour la vie. Mais voici où est-ce que souvent on déroute. Où est-ce que souvent on a de la misère. L'échec par rapport à ça. OK? On parle d'être mort au péché, vivant pour Dieu. C'est que souvent on aimerait ça, se sentir, se voir, expérimenter la mort puis la vie pour croire la parole de Dieu. Mais Dieu, je veux bien croire que je suis mort, mais je me sens pas mort. La façon que j'agis, j'ai pas l'air de quelqu'un qui est mort au péché. Puis, avec ce que j'ai expérimenté, j'ai pas l'air de quelqu'un qui est vivant pour Dieu. C'est comme les faits versus l'expérience subjective concrète de notre vie. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'on a vu un matin? Est-ce que la foi dépend des circonstances?
Non.
Non. OK, les faits sont là. La foi, c'est justement ça. C'est malgré comment je me sens, malgré ce que je vois, hein, est-ce qu'on marche par la vue ou par la foi? On marche par la foi. OK? Donc, au lieu de vouloir entendre, de ressentir quelque chose, de voir quelque chose, d'expérimenter quelque chose, on croit ce que Dieu nous a dit qui est déjà arrivé. OK? Comme étant une réalité. C'est pas les circonstances, les sentiments, nos pensées qui définissent la réalité, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu a dit, vous êtes mort avec Christ et vous êtes ressuscité avec lui. Donc, le problème de l'échec, c'est pas nécessairement qu'on sait, c'est pas parce qu'on sait pas ce que Dieu nous a dit, c'est parce qu'on le croit pas. Donc, c'est ça la première condition, c'est croire ce que Dieu nous a dit. Parce que, rappelez-vous, hein, on l'a vu là, Dieu veut qu'on sache des choses, début de Romains 6. Ensuite, qu'on les croit, verset 11. Puis là, on va voir qu'on obéit. Donc, la foi, c'est tellement important. Maintenant, ça nous amène à la deuxième condition, qui est au verset 13. Quand ça dit, au verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » On pourrait résumer ici la deuxième condition par le mot « consécration » ou « obéissance ». OK? Obéissance de la foi. C'est avec toi, Joseph, qu'on parlait de ça, l'obéissance de la foi. Pas une obéissance là, intellectuelle ou légaliste, je dois faire. Non, c'est la réponse à Dieu. C'est une obéissance qui est une confiance. La dépendance n'est pas en moi, c'est que Dieu me dit des choses et je réponds à ça par la foi. Mais il y a une obéissance, c'est l'obéissance de la foi. C'est l'obéissance qui est la manifestation de ma confiance. OK? Si je me confie en Dieu, ça va donner une obéissance. Sinon, c'est en vain. Sinon, c'est juste des mots. Sinon, c'est se tromper soi-même, comme ça dit dans Jacques. Hein? On entend la parole, puis comme des auditeurs oublieux, ben on s'en va, puis on fait pas ce que Dieu nous a dit. Donc, la consécration de l'obéissance, très important à comprendre. Parce que, savez-vous, l'humain, comment qu'on est? Là? Avec l'enfance qu'on a mis dans les derniers mois, sur le fait de tout est accompli, puis par la foi, on peut, dans notre nature humaine, aller à l'état sain, puis ah, ben l'obéissance est plus important. Non, non. La parole est complète, hein. C'est que c'est la foi qui précède l'obéissance. Le problème, c'est pas avec l'obéissance, c'est l'obéissance seule. C'est une question de dépendance. Si j'obéis, mais que c'est pas le fruit de la foi, c'est ça qui est pas bon. L'obéissance isolée, qui est dépendante de ma chair, ça n'a pas la bonne source. Mais la foi, la confiance, va donner de l'obéissance. Sinon, c'est pas la foi dans Dieu. Parce que Dieu ne dit pas, « Hey, j'ai quelque chose à te dire, là, puis c'est juste une information que je voulais te partager. » Non, non, Dieu, quand il nous dit quelque chose, c'est pour qu'on se confie en lui, puis ça veut dire qu'il faut qu'on ajoute foi concrètement en faisant quelque chose qui va démontrer qu'on se confie en lui. Tu sais, ou en faisant pas quelque chose. Si on prend l'exemple de ce matin avec Abraham, il fallait qu'il attende. Fait que l'obéissance, c'était de continuer malgré toutes les conditions, les circonstances à faire confiance à Dieu sans vouloir essayer lui-même faire de quoi. Lui, c'était une obéissance qui l'empêchait de faire de quoi. Puis on sait que justement, le problème, c'est quand... Ben, le problème, de dire Dieu est plus grand que ça, mais son problème, c'est qu'à un moment donné, il a voulu par lui-même. Hein, la dépendance n'était pas en Dieu. Il a voulu essayer de prendre les choses en main. Puis on sait ce que ça a donné, hein, Ishmaël et tout ça. Mais voyez-vous, l'obéissance de la foi, qui est la réponse à Dieu, qui est la confiance en Dieu, qui est ce qu'on fait à la lumière de ce que Dieu nous a dit. OK? Donc, c'est ça. Pour résumer, là, dans le fond, là, okay, le calcul de la foi, puis tout ce qu'on a vu avec Romains 6, 11, là. Dieu, OK, pour avoir la victoire sur le péché, puis sur sa puissance sur nous, il veut pas qu'on arrête juste à dire, à voir, OK, je me vois comme mort au péché et vivant pour Dieu. Cette foi-là aboutit au fait que, si on veut que ça donne de quoi, je dois être disposé à me donner à Dieu. Tu sais, si je dis, ah, moi, je suis mort au péché, vivant pour Dieu, mais ça veut dire, OK, Dieu, n'importe quoi, c'est ça qu'on va développer dans ce message-là. N'importe quoi que tu me demandes, à cause que je suis mort à moi-même au péché, puis que je suis vivant en toi, ma vie ne m'appartient plus. Tu m'en demandes n'importe quoi, Dieu, il n'y a pas de limite. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire une obéissance totale. Fait que les gens qui vont essayer de diminuer l'obéissance à cause de la grâce, c'est l'inverse. Quand tu comprends bien la grâce, c'est une obéissance qui a zéro limite. Je veux dire, c'est une obéissance encore plus. Puis elle n'est pas pénible. C'est comme Dieu. C'est tellement merveilleux ta grâce. Je veux dire, demande-moi n'importe quoi. Tu m'as tellement gracié, tu es tellement bon. J'ai une confiance en toi. Avec... Demande-moi n'importe quoi, puis ça va être bien correct. Parce que ta grâce est là. Tu me demandes de me jeter dans le vide, t'as un filet à quelque part qui va me reprendre, puis tu vas pas me laisser tomber. Comprenez-vous? C'est ça que ça donne, la bonne compréhension des vérités ici. Quelqu'un qui s'en va dire qu'on devient antinomien, puis mettons qu'on a l'obéissance, c'est plus important, il comprend pas pantoute l'idée de la grâce. Okay? C'est vraiment important parce que, comme je vous dis, des fois on peut aller d'un extrême à l'autre dans une mauvaise compréhension ou des mauvaises déductions, qui d'ailleurs, Romains 6, hein? Romains 6, c'est une mauvaise déduction d'un bord. Ah, on va pécher pour montrer que la grâce abonde. Puis Romains 7, c'est de l'autre bord. Hein, on va tellement se garder là, nous, par nous-mêmes avec les efforts de la chair qu'on va pas pécher. C'est deux extrêmes. Deux réactions humaines. OK? Puis on pourrait arriver à un point, justement, si on n'arrive pas à cette obéissance. Si cette fois-là, donne pas l'obéissance, bien, comment ça que je ne suis pas libéré du péché? Pourtant, Dieu nous dit, je suis mort au péché, vivant pour Dieu. Oui, mais ça doit aboutir à cette consécration, à cette obéissance. Tant qu'on n'est pas disposé à tout abandonner, à tout donner, qu'il y a encore une résistance, on laisse au péché la porte de s'ouvrir. Pourquoi? Parce que je n'agis pas à la lumière de ce que Dieu... Si je suis mort au péché, pourquoi je lui donnerais une petite chance? C'est plus mon maître. Comprenez-vous? Fait que péché, je veux dire... Tu n'as plus rien à faire comme autorité dans ma vie. Là. Justice, Dieu, tes voix, n'importe quoi que tu me demandes, que ça me fasse peur, que ce soit dans dehors de ma zone de confort. Comprenez-vous? C'est ça le genre d'abandon et d'obéissance que ça donne, la foi biblique qui comprend c'est quoi la grâce de Dieu. Pis là, je ne parle pas de résistance. On comprend là, qu'on ne parle pas là, de confiance en soi-même et de résolution personnelle d'essayer fort. Non, c'est tout à la lumière de ce que Dieu a fait. OK? Maintenant, si j'ai un blocage dans mon Romains 6-11, à me regarder comme mort au péché et vivant pour Dieu, OK? Puis voir dans le fond ce que je suis en Jésus-Christ. Ben, pour le mettre dans les mots de Jésus-Christ, ça va, je vais, tu sais, l'expression « demeurer en lui », on a parlé de ça dans le dernier message. Ben, c'est là que ça va bloquer. T'sais, demeurer en lui, c'est une foi qui demeure en lui puis qui marche en lui. C'est pas juste une expression statique, demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est comme dans une maison, tu te promènes, tu as une liberté, tu te promènes là-dedans, tu demeures. C'est pas comme je suis ici, puis là, je crois à Dieu. Pis... Non, il y a ça, cette notion-là de foi vivante, puis d'obéissance, consécration, il y a un échange, il y a une dynamique. OK? C'est ça, justement, tout le point ici, là. On livre nos membres. On se donne à Dieu. Il y a cette consécration-là. Donc, il faut absolument que cette foi de Romains 11 doit donner la consécration du verset 11, doit donner la consécration du verset 13. Puis même, je dirais, les deux sont spécifiques. Et j'explique. C'est spécifique, écoutez bien, c'est important. Aussi spécifique que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. OK? Si il y a seulement une compréhension mentale. T'sais, est-ce qu'on a reçu Jésus comme notre sauveur dans notre tête? Non, on l'a reçu dans notre cœur. OK? Ben, Jésus, quand on marche avec lui, puis que Christ est notre vie, c'est pas juste une affaire mentale. OK, là, je crois ça, là, je suis mort au péché, je suis vivant pour Dieu, puis c'est tout dans ma tête. Non, c'est dans mon cœur. Puis qu'est-ce qui est dans mon cœur? De lui procède les sources de la vie. Ça ressort. Comprenez-vous? Fait que c'est spécifique à vraiment le centre de mon être. C'est pas juste une affaire, ah, oh, je sais ça dans ma tête. Tu sais, comme beaucoup de gens vont dire, ben oui, Jésus est mort pour nos péchés. Puis il est comme là-bas, loin. Non, Jésus est mort pour mes péchés. Et il m'a sauvé moi. Il m'a délivré moi. Je suis, tu sais, c'est personnel. OK? Donc, si on a seulement... cette croyance mentale sans voir la foi spécifique dans ce que Christ a fait pour nous, avec nous, puis cette consécration spécifique qui va en donner, ben ça va pas avoir de transformation sur ma vie. On reste dans la théorie, puis on n'est pas dans la pratique. À chaque fois qu'on est vaincu, OK, quand dans notre vie, là, ça peut arriver, là, on peut dire avec certitude, c'est parce qu'on a échoué dans notre foi, puis l'obéissance qui en suit. Regardez, là, dans votre vie, là, c'est à quel point on n'a pas cru à Dieu, on n'a pas ajouté foi à ce que Dieu a dit, puis on n'a pas agi en conséquence. La dépendance est en soi. L'origine était soi, la chair. OK? Il n'y a pas d'autre raison. Ça, c'est les deux conditions. C'est-à-dire, c'est la foi, puis l'obéissance, la consécration qui en résulte. Quand il y a des échecs dans ma vie, c'est dans un de ces deux domaines-là, ou les deux. Problème de foi et du fruit de la foi, de l'obéissance qui s'ensuit. Ou pour le mettre en un mot, j'ai un problème avec l'obéissance de la foi. Ça les met ensemble. Puis c'est une expression biblique en passant. Ça l'ouvre l'Épître aux Romains, puis ça le ferme. Fait que c'est important. On doit apprendre à vivre par la foi en Christ sans jamais nous regarder, penser à nous-mêmes ou essayer de faire de quoi en dehors de lui. On doit apprendre à chaque jour à croire à ce que nous sommes en Christ, à ce que Dieu a fait de nous autres, c'est réel, c'est actuel. C'est pas juste une position, c'est pas juste une affaire là-haut dans le ciel, c'est actuel dans ma vie. C'est un fait. Puis en même temps, je dois maintenir la consécration à Dieu avec Christ qui vit en moi en regardant tout comme de la boue puis comme tout comme à la lumière de l'excellence de connaître Christ. C'est ça l'idée de l'obéissance, de la foi. C'est pas comme ah là il faut puis c'est quelque chose qui m'est mis sur moi, c'est comment je ferais autrement. C'est-à-dire, le reste c'est tout de la boue. Christ est tellement précieux, comment je ferais autrement comme donner à lui, comprenez-vous? C'est pas une obéissance qui est comme là il faut que tu fasses ça, Josiah, là, parce que sinon ça va pas bien aller dans ta vie. C'est comme je sais qu'est-ce que tu ferais d'autre. Je veux dire, le reste là, notre chair, mais ça sert à rien la chair, c'est l'esprit qui vivifie. Tu sais, c'est comme c'est pas un argument là, c'est il y en a pas d'argument, c'est évident, it's self-evident. OK? C'est pour ça que moi j'ai tellement vu, il y a un gros contraste, je le vois tellement à ce temps clairement, mais tu sais, si tu as besoin dans ta prédication de mettre le fardeau sur les autres parce que tu n'as pas prêché Christ, si je suis obligé de dire, hey là, tu sais, Jean-Pierre, là, il y a beaucoup d'âmes qui meurent dans le monde, puis c'est vrai, beaucoup d'âmes qui meurent dans le monde, donc il faut que tu y ailles. Mais si j'exalte Christ, puis son œuvre, puis comment que son sacrifice est suffisant pour tout le monde, puis que, hey, il a tout accompli, ben pourquoi tu irais pas? Je veux dire, tu peux prêcher à n'importe qui, puis dire, crois en Christ, puis. Il peut être sauvé, tu sais, tu comprends? Et l'un, c'est le fardeau sur ses épaules, l'autre. Je veux dire, Christ a tout accompli, pourquoi je n'irais pas en parler à d'autres? Son œuvre est là, est accomplie, tu sais, puis c'est vrai pour toutes les. Voyez-vous que c'est deux façons de voir la même chose, mais carrément avec des lunettes différentes. Ou pour employer une autre expression que j'ai lue, puis j'ai employé une gosse une couple de fois, deux paradigmes différents. C'est comme deux schèmes de pensée, deux approches différentes, deux worldviews. Différent. En fait, pas John, mais Jim Van Gelderen, il appelle ça « The Great Continental Divide ». Vous allez aux États-Unis, ben, probablement aussi qu'au Canada, il doit avoir ça, mais il y a une place, là, vous allez, je ne sais pas c'est dans quel état, mais vous allez à cette place-là, puis à ce point-là, c'est comme ça doit être un sommet de montagne, je ne sais pas si c'est un sommet de montagne, mais l'eau, à partir de ce point-là, elle va sur la côte est, puis l'eau bord, elle va sur la côte ouest. « The Great Continental Divide ». Puis, pourquoi il dit ça? Il applique ça à la vie chrétienne. Quand tu te tiens sur Christ, puis sa parole, puis ses promesses, c'est comme si là, à ce temps-là, tout part d'un bord ou tout part d'un autre. Soit tu vois la vie à la lumière de les efforts personnels, puis j'essaye bien fort, ou à ce temps, tu vois tout à la lumière de l'œuvre accomplie de Christ. C'est comme, t'es carrément, tu sais, c'est le point diviseur. Ça, tu passes soit d'un bord, tu passes soit de l'autre. Ben, c'est ça, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Oh. Expression employée.
Oh, wow!
Non, non, c'est pas fini tout, là! Sur le sujet du Great Continental Divide. Vous devez trouver que ça finissait raide, mon message, hein?
Ouais, moi, j'aime ça, la manière de finir.
Ah, oui, parce que ça vient de toi.
Ouais,
c'est
ça. Ma
ouais, c'est ça. Hey, autrement dit, il n'y a rien que je ne puisse pas abandonner au Seigneur. La Bible dit que c'est, tu sais, nous donner au complet, là. notre corps en sacrifice vivant, simple et agréable, c'est un sacrifice raisonnable. C'est pas trop nous demander. Il n'y a rien que le Seigneur ne peut pas nous demander. On va dire, ben là, t'exagères. Non, parce que Christ est tout donné pour nous, puis étant mort au péché, puis vivant pour lui, je veux dire, il y a zéro limite que je peux mettre, là, parce qu'il a tout fait pour moi. Pourquoi moi, je mettrais une limite? OK? Tout ce que Dieu me demande, même si c'est difficile, voire impossible, contraire à la chair, mon cœur régénéré en lui est prêt à le faire. Puis il a plaisir à le faire. C'est la nouvelle alliance. On a un nouveau cœur. Dieu nous dit, puis on dit, oui, Seigneur, hey, ça me fait peur cette affaire-là. Mais vu que c'est toi qui me le demande, là, il y a sûrement quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Là. Je vais découvrir mon Dieu là, d'une façon vraiment unique. Là. C'est ça l'obéissance de la foi. C'est excitant, n'est-ce pas? Waouh, OK, je vais découvrir quelque chose sur mon Dieu. Quand on voit la vie de la bonne façon, là, il n'y a plus de fardeau. Les fardeaux s'en vont parce que ils sont plus sur nos épaules. C'est Christ qui les a pris et qui continue de les prendre tout le temps. Je vous dis, ça change absolument. Moi, je capote ben raide. On dirait que j'ai été re-sauvé. Je pense que je vais partir une nouvelle doctrine. C'est comme être sauvé une deuxième fois. Mais non. En fait, j'ai été sauvé une fois le 27 août 1997, mais je redécouvre la vie dans sa simplicité, sa beauté, comme si c'était tout au tout début. Hey, mes amis, savez-vous ça? Tu sais, on parle d'obéissance, là. Il n'y a pas de prix trop grand à payer pour Dieu. Qu'on se l'écrive sur le cœur, qu'on le voit, mes amis. Quand on comprend c'est quoi la grâce puis l'amour qui nous a été... Comment je dirais à Dieu, ah non, là, tu me demandes trop. Je veux dire, quand on comprend c'est quoi la grâce, son sacrifice, il n'y a pas de sacrifice de ma part qui est trop grand pour lui. Mais là, ça m'amène à un point à considérer sur c'est quoi la consécration. Puis ça va être pas mal. On s'achemine vers la conclusion de la pensée que je veux partager aujourd'hui. Il y a encore là, dans le monde chrétien, une grande incompréhension quand on parle de consacrer, se consacrer. Tu sais, ou prendre ici, là, livrer nos membres, se donner à Dieu, OK? Céder, en anglais, ça dit céder. Le mot livrer, céder, OK, qui est utilisé, en fait, c'est important parce que dans le chapitre 6, là, à partir de la section qu'on commence, là, il est au chapitre, le mot céder, le mot pour, en grec pour ça, c'est au verset 13, au verset 16, puis au verset 19. Donc, c'est une pensée qui revient, là, de se donner à Dieu, parce que là, il a tout expliqué la vérité, maintenant, la réponse de ça. Donc, vérité, expliquer, application, OK? Paul fonctionne avec cette logique-là. Donc, ce mot-là, l'idée de céder, là, vous savez, c'est employé à différents endroits dans le Nouveau Testament. C'est employé, exemple, dans Luc 2, 22, quand que les parents de Jésus l'ont présenté dans le temple. Ils sont allés à Jésus pour le présenter à Dieu. Tu sais, puis c'est comme, puis dans Romains 12, 1, présentez vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc, l'idée de me consacrer, je me présente à Dieu. Dieu, je me donne à toi. Tu sais, je suis là devant toi, fais ce que tu veux avec moi. C'est vraiment l'idée de, tiens, Dieu, je suis à toi. Fais ce que tu veux avec moi. Je me présente à toi comme t'appartenant. OK? C'est ça l'idée. Comme à la consécration des bébés dans le temps, c'était Dieu, c'est ton enfant, fais ce que tu veux avec. Puis on fait ça aussi dans les milieux chrétiens. Nous, on a fait ça avec nos enfants. Dieu, c'est ton enfant, fais ce que tu veux avec. On consacre les bébés. Mais c'est ça aussi. On se consacre comme ça à Dieu. Le mot céder renferme l'idée de l'abandon. Je m'abandonne à toi. Mais dans les milieux chrétiens, évangéliques, souvent il y a cette pensée erronée qui vient avec. Là, j'explique. Souvent, quand on parle de priver, se présenter, se livrer à Dieu, je voulais dire présenter puis livrer, mais ensemble, ça fait priver, ça marche pas. Se présenter à Dieu, se livrer à Dieu dans un acte de consécration, on ne veut pas dire « Dieu, je te donne mon vieil homme. Prends-le, puis je veux maintenant vivre par le nouvel homme. » Ça, c'est pas comprendre Romains 6, mais souvent, c'est compris de même. Un appel à l'autel. « Dieu, j'ai tellement fait des affaires mauvaises, puis j'ai honte de moi, je viens me donner à toi. Hein, moi qui ai donc bien eu de la misère, puis tout ça. » Comprenez-vous, il y a une idée légitime là-dedans, hein, de la misère. Fait que Dieu, je te donne toutes mes vieilles affaires. Je te donne mon vieil homme avec les mauvaises affaires qu'il fait. Non, ça, c'est le vieil homme. On ne peut plus le donner. Il est crucifié. Écoutez bien, là, j'ai un point important que je vous amène. On va prendre le temps de vous l'expliquer. C'est avec ça qu'on finit, mais... Ça ne veut pas dire de consacrer notre vieil homme avec ses instincts, ses ressources, notre sagesse naturelle, notre force, nos dons naturels. De donner ça au Seigneur, c'est à toi-en. Non, ce n'est pas ça l'idée. Ce qui ressort vraiment du verset 13, OK? Remarquez que ça dit, on se livre, on se donne à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Qu'est-ce qui est offert ici? C'est ce qui est vivant, c'est ce qui est nouveau. C'est pas le vieux qu'on offre. Le vieux, Dieu l'a crucifié, il est plus là, c'est fini.
C'est
tu peux pas ouvrir ça, c'est le nouveau qu'on a. Comme étant vivant, c'est vraiment important les mots là. Donc Paul dit, présentez-vous à Dieu comme étant vivant, vous qui étiez, ou ressuscité des morts. Vous qui étiez morts, présentez-vous comme étant maintenant vivant. Ça définit pour nous le point de départ de la consécration. C'est-à-dire, ce qu'on offre à Dieu, ce n'est pas ce qui appartient à l'ancienne création. C'est ce qui est nouveau. On offre à Dieu ce que lui a fait. C'est quand même spécial. Dieu, tu as fait de moi une nouvelle créature, ben, est à toi. Encore là, c'est une compréhension de la grâce. Pourquoi que je garderais quelque chose? C'est toi qui as fait de moi ce que je suis. Ben, je te le donne. Il n'y a rien à nous, tout est par grâce. Dieu nous a fait passer de la mort à la vie. On est une nouvelle création. Mais Dieu, c'est à toi, c'est ta création. Pourquoi je la garderais pour moi? Voyez-vous que ça change les affaires? Parce que sinon, si on dit, hey, Dieu, j'ai toutes mes vieilles affaires, mon vieux bagage, puis là, c'est encore là la honte puis le fardeau. Mais non, Dieu t'a fait de quelqu'un de nouveau avec moi. J'ai encore le péché qui donne du trouble là-dedans. Mais, hey, je me donne à toi, là, le vivant. Là. Dieu fait ce que tu veux, là. C'est vivant, là. Fait que toi, tu vas faire, t'es le Dieu vivant. Tu vas faire de quoi? De vivant avec le vivant, là.
Amen.
Comprenez-vous qu'il y a quelque chose de... Pas pour rien qu'on prend le temps de vraiment s'arrêter avec Romains 6, là. C'est profond, là. C'est profond. Non, je t'ai rendu où avec tout ça? Oui, on offre le vivant. Donc, ce dont il est question ici, là, c'est ça, c'est que c'est une offrande à Dieu, c'est une consécration qui est faite à la lumière du fait qu'on sait, on connaît, Romains 6, on sait qu'on est mort au péché, vivant pour Dieu, ok, qu'on est crucifié avec Christ, ressuscité avec lui, puis là on compte ça, là, on fait le calcul, là, ok, puis là ben, ça veut dire, on le présente à Dieu, il y a un ordre là-dedans, je sais des choses, je les crois, ben j'agis en conséquence. Voyez-vous toute la logique, là? C'est impeccable. C'est le Saint-Esprit. C'était pas Paul, là. C'était Dieu. Tu le disais Paul, là, mais c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ça. Voici ce avec quoi je termine. Lorsque je sais que je suis crucifié avec Christ, okay, que c'est un fait accompli, je me considère spontanément comme mort, n'est-ce pas? Hein, ça, c'est le début de Romains 6, puis je le reconnais comme tel. Et lorsque je sais que je suis ressuscité avec lui d'entre les morts, ben je me considère comme vivant. OK? Donc, c'est l'autre côté de la même médaille. Et ça, ben quoi faire d'autre que le donner à Dieu? Tu sais, je dis, Dieu ne l'a pas donné pour que ça soit resté comme ça dans un tiroir, mais pour qu'on l'offre à lui par la foi. Tout est par la foi. Lorsqu'on atteint ce point-là, cette compréhension-là, lorsqu'on est arrivé là, de croire ce que Dieu nous dit sur nous-mêmes, il n'y a pas d'autre suite logique que se donner à Dieu. Si Dieu a tout fait ça avec moi, qu'est-ce que je peux faire d'autre que donner ce qu'il a fait avec moi, le donner à Dieu? Donc, je peux tout lui remettre, sans mesure, parce que tout est à lui anyway. Donc, la mort a coupé tout ce qui peut lui être consacré, puis seule la résurrection a rendu la consécration possible. Tu sais, avant, là, tout ce qui était mort, puis pas bon, justement, comme je disais, là, je veux dire, je peux plus l'offrir à Dieu, il n'y avait rien de bon là-dedans, premièrement, puis je veux dire, je peux plus l'offrir à Dieu, c'est plus là. Je veux dire, le vieil homme, il est mort. Fait que là, tout ce que je peux offrir à Dieu, c'est ce que lui a fait, c'est ce que lui, dans sa grâce, a fait de moi. Et ça, c'est tout bon. J'appartiens au Seigneur. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nul ne s'appartient à lui-même. Hein? Amen. Avez-vous des questions? Tu allais dire quelque chose? Parce que moi, j'ai fini, là. C'est quoi que tu voulais dire, Annonciata?
J'ai dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi.
Amen.
Je m'abandonne à lui.
C'est ça.
Elle fera ce qu'il voudra.
Oui, puis ça dit, tu sais, soit qu'on vive, soit qu'on meurt, on est au Seigneur. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. À cause de ce que dit, tu sais. Parce que la rédemption, c'est ça. Il nous a pris, on était sur le marché des esclaves, on était mort dans les affaires sur nos péchés, puis il nous a rendus à la vie, il nous a libérés Puis c'est pour lui, là, tu sais. Fait que là, il nous a rendu vivants. Fait que c'est pour lui. Fait que c'est pour ça que t'as pas d'autre option que c'est que tu fais, tu sais. Fait que. Oui, une autre question ou commentaire?
S'offrir comme un instrument de justice.
Ouais. C'est ça. En verset 13. Yes, Drew Sire?
Ce que je vois là-dedans, c'est bon parce que ce que t'as apporté aujourd'hui, c'est l'équilibre de mérite et de grâce. Parce que ceux qui pensent que, oh, la grâce. Si on prend la grâce hors de la vérité, c'est plus la grâce.
Mm-hmm.
Mais c'est bon ça, mais aussi la responsabilité de l'obéissance de la foi, c'est toujours en nous. Et c'est en réaction de ce que Dieu a fait.
Amen,
parce
c'est
que
ça.
Ceux qui prennent la grâce trop loin, c'est comme, oh, c'est tout de grâce, c'est tout de Dieu. C'est comme, il nous contrôle. Mm-hmm. Mais non, c'est nos réactions de foi à ce qu'il a fait.
Puis l'autre réaction à l'égaliste, c'est comme c'est tout nous. Je fais, mais non, je réponds à Dieu, là. Je réponds à ce que Dieu a fait. Là.
Ouais. Ouais. Mais il ne, c'est un bon, force, ouais. Il ne nous force pas.
Non, c'est ça, c'est notre choix.
Le calviniste qui prend la grâce. Oh, la grâce, c'est tout Dieu, c'est rien de nous, mais c'est nos réponses.
Oui, c'est ça.
C'est l'équilibre.
Pascal?
Est-ce que ce serait juste ou une bonne compréhension de faire le parallèle avec l'arbre de la vie et la reconnaissance du bien et du mal, c'est-à-dire le focus sur l'art de la connaissance du bien et du mal, ça va être genre, là je veux vraiment faire tout ce qui est correct ou je veux vraiment pas faire tout ce qui n'est pas correct, je veux comme obéir à Dieu à 100% et faire la meilleure chose, versus je focus sur Dieu qui est la source de la vie, puis là, ça découle.
En fait, ça a très rapport parce que, OK, en fait, non, c'est frais dans ma tête parce que le message principal que j'ai partagé sur Christ notre vie quand j'étais là-bas, c'est justement, ça l'amenait ça, l'idée, c'est que il y a un arbre qui amène à l'autosuffisance. Tu sais, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je sais ce qui est bien, ce qui est mal, j'ai appris comment, donc je suis capable de le faire, j'ai pas besoin de Dieu pour ça. L'arbre de vie, ben, faut que je dépende de Dieu pour la vie, là, je veux dire, tu sais, c'est Christ en moi, là, c'est pas une version améliorée de moi, c'est Christ en moi, là. Donc, oui, absolument, il y a un parallèle, parce que quand on marche selon l'arbre de vie, il y a la réponse, OK, à ce que Dieu a fait. On n'est pas les initiateurs comme avec l'arbre de la connaissance, que là, ah, ben, je veux faire ce qui est bien, tu sais, puis je veux pas faire ce qui est mal, puis c'est nous qui callent la chute. Mais selon l'arbre de vie, pour que ça soit vraiment la vie de Dieu, parce que la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie, ben, il faut que ça soit Christ en moi qui fait, puis il faut que ça soit par la foi, il faut que je me confie en lui, puis que je réponde. Et donc, la dépendance, elle est là. T'sais, c'est lui la source. C'est pas mes ressources, c'est lui la source. Ouais?
Est-ce que, là, je réfléchis, il est un peu court en même temps que tu parles, là. Mais est-ce que tu sais, on dit Christ vient en nous quand on pêche ou quand on s'éloigne de ses voies? Il est encore en nous, c'est juste qu'on n'agit pas selon la réalité.
Ouais. On vit un mensonge. Tu sais, on dit des fois dans les livres, les pays communistes, là, oh, on est le meilleur pays du monde, tout est beau, là, puis vous êtes vraiment dans un super pays, là, tu sais. Là, déjà, ils vivent un mensonge. Ben, là, tu dis, moi, je vais de la vie chrétienne, puis tout ça, puis j'essaie vraiment fort, puis ça, ben, je vis un mensonge, parce que je passe à côté de Christ qui est la vérité. Je vis un mensonge. Ouais. T'as répondu à ta question?
Je pense que oui, là. Ma tête attend encore. Ça me donnera une autre.
Quand t'es assis, tu tomberais bien à terre. Amen, des bonnes questions, Jean-Pierre?
Ben moi, c'est pas une question, là. C'est juste une réflexion comme ça. Tu sais, moi, depuis un bout de temps, ça, je me dis, bon, c'est ça, on parle beaucoup de la chair et tout ça, puis on sait que le Seigneur, là, lorsqu'il va nous prendre, ben, il va nous donner un corps glorifié. Bon, c'est ça, le corps qu'on a, on est une âme vivante, on a un esprit, on a un corps. Ben c'est ça, le corps qui est là, c'est ça, il est... Bon, c'est ça, oui, notre vieil homme n'est plus là. Notre nouvel homme est encore là, mais est là maintenant, mais... c'est sûr qu'on a encore notre corps...
notre corps mortel.
Notre mortel, c'est ça, ouais. C'est ça, je me dis, tu sais, je sais pas si ma réflexion est bonne, tu sais, je suis en train de réfléchir là-dessus, mais je me dis... Tu sais, à un moment donné, le Seigneur va. On lui remet tout, puis, tu sais, comme moi, tu sais, je regarde tout, là, comme tu disais, là, tu sais, puis comme Paul le dit, là, je regarde tout comme une aboue, là, comme. Parce que c'est à cause d'excellence de donner de Seigneur. Puis,
mm-hmm.
Qu'est-ce qu'un homme pourrait nous faire? Notre corps, c'est peu importe ce qui peut arriver, dans le fond, pour nous. T'sais, dans le fond, t'sais, même si l'ennemi voulait s'en prendre à nous, il peut s'en prendre à notre corps.
Mm.
Mais
il peut pas à notre âme. Pis...
Non, c'est ça. La seule chose qu'il peut faire, c'est qu'il ouais. peut nous précipiter dans la présence du Seigneur.
Ouais.
Il peut prier.
Ben, c'est ça. Fait qu'il peut juste précipiter le bien. Mais juste par rapport au corps, parce qu'on n'est pas les gnostiques qui disent que le corps est mauvais. Le corps n'est pas mauvais en tant que tel, il est créé par Dieu. Mais! Le corps est le véhicule du péché, ça dit le péché qui est dans mes membres.
C'est ça.
Pour ça qu'on parle du corps du péché, c'est que le véhicule du péché, parce que le principe du péché habite encore en nous. Là. On n'est plus pécheur foncièrement, on est rendu saint parce qu'on a une nouvelle nature, on est en Jésus-Christ. Mais le péché qui est dans nos membres, ce véhicule, par d'accord, pensez-y, là, quand on s'inquiète avec notre cerveau, qu'on pense à le petit moineau, pas le petit hamster qui part, puis mettons qu'il s'inquiète, ben, c'est avec notre cerveau, nos yeux qui convoitent. Nos oreilles qui entendent du commérage, puis notre bouche qui répète. On pêche avec notre corps.
Ouais,
notre main qui est violente. Notre pied qui va. Tu sais, on pêche avec notre corps. C'est l'instrument. Fait que le corps est pas mauvais, mais c'est l'instrument. Pour ça que ça dit offrir votre corps, là, comme un instrument de justice. Et non pour le. Fait que le corps, dans le verset là, on voit justement, le corps est central. Puis c'est pour ça que l'obéissance est importante. Ben, Dieu t'a donné ton corps, mais. Ben, tu sais, c'est ça l'idée. Tu le donnes à Dieu. Tu sais, fait ce que t'as fait de moi, mais hey, mon corps, là, c'est. C'est pour toi, là, ça n'a plus rapport avec le péché, là, je veux dire.
C'est
quoi t'as à dire,
Non, c'est une question, d'abord, ouais. Parce que, tu sais, on parle du corps, l'âme, puis l'esprit, là.
Ouais.
Le corps, tu sais, lui, c'est le véhicule du péché, puis l'âme, puis l'esprit, c'est comme nébuleux, c'est quoi les
OK, choses? L'âme, là, c'est la vie, c'est moi-même, ma personnalité, c'est ma volonté, ma pensée, mes émotions, OK? L'esprit, étant maintenant en Jésus, quand on est sauvé, l'esprit rend témoignage à notre esprit. L'esprit de Dieu habite en notre esprit. OK? On est connecté spirituellement. Esprit, avant on était mort. Avant notre esprit était mort, là, en Jésus, on est vivant. Donc, Dieu, sa volonté, sa pensée, ses émotions sont communiquées à notre esprit. OK? Et donc, entre mon esprit puis mon âme, l'idée, c'est que si j'agis selon mon âme, là, ce que moi je veux faire, là, ma volonté, ben là, je me dirige vers le péché. Mais l'esprit me dirige, tu sais, on dit l'esprit nous dirige, ben l'esprit communique à mon esprit, puis il me dirige toujours dans la vérité. Fait que, au lieu d'écouter mes pensées, mes émotions, mes volontés dans mon âme, j'écoute, j'obéis ce que l'esprit communique à mon esprit.
Okay.
Donc, tu sais, on est tripartis. Il y en a un qui c'est le corps, l'autre, l'âme, tu sais, c'est vraiment, c'est comme nous, tu sais, notre personnalité à nous, tu sais, comment Dieu nous a fait.
Fait que là, si, mettons que si je meurs, là, bon, le corps, lui, il meurt, c'est certain. L'esprit, ben, il va avec le Seigneur. Mais l'âme, qu'est-ce que c'est
on quoi? Dit l'âme est éternelle.
OK.
C'est là où est-ce que, parce que nous, on est trichotomistes, puis il y en a qui sont dichotomistes, qui vont dire que l'esprit puis l'âme, c'est synonyme. Moi, je crois pas. Mais les deux vont au Seigneur.
OK.
Tu sais, autant notre partie foncièrement, nous autres, comment Dieu nous a fait l'âme, que la partie régénérée. Puis de toute façon, c'est parce qu'avant, l'esprit, on avait un esprit, mais il était mort. Il n'était pas en connexion avec Dieu.
C'est ça.
Puis là, maintenant qu'on est à côté, c'est notre dimension spirituelle vers Dieu. C'est comme. On peut des fois vouloir un peu séparer à outrance. Là. Même notre corps aussi va aller à Dieu, là. Éventuellement. Là, t'sais. Fait que tout ça s'en va à Dieu, finalement. Corps, âme et esprit. Là, t'sais. Ouais. Hein? C'est quoi t'as dit? Hey, alors rends-moi là ta joke.
Je me dis quand on fait un voyage astral, qu'est-ce
qui se passe? Oh! Hey, vous avez des bonnes questions. Ah, mais oui, attends, ben, à Pascal ou Annonciateur, les deux vous avez levé la main. Mais vas-y donc, Annonciateur.
Oui, quand Pasteur Guillaume parlait... J'essaie de nouer deux petites chansons, l'une est à Kinyarwanda, l'autre est en français. Alors ça, c'est comme quelque chose de... Donc la première